Vous écoutez On lit pour vous.
Trois femelles pour les faucons pèlerins de l'Université de Montréal. Un texte d'Ariane Godbout, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir. Samedi matin, les trois fauconneaux nés ce printemps à l'Université de Montréal ont été bagués lors d'une procédure qui avait des allures de baptême. Les biologistes et les bénévoles réunis à l'occasion ont pu en identifier le sexe, trois femelles, et nommer deux d'entre elles, Gali et Gao. L'événement était attendu des amateurs d'ornithologie qui peuvent suivre en direct les aventures de Teddy et Ziva, le plus récent couple de faucons pèlerins à nicher au sommet de la tour du pavillon Roger Gaudry. Ève, le faucon femelle qui y nichait depuis plusieurs années, n'est pas revenu cette année. Le nouveau couple s'y est installé ce printemps et a donné naissance aux trois fauconneaux, éclos les 21 et 22 mai 2026. « Je pense qu'on peut vraiment parler d'un engouement du public », affirme Ève Bellil, qui dirige le projet depuis ses débuts en 2007. « C'est une vraie télé-réalité. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Il y a du drama. » Une procédure délicate. Du drama? Il y en a eu, lorsque les fauconneaux ont été retirés du nid le temps qu'ils soient bagués, pesés et examinés pour vérifier leur état de santé général. Affublés de casques et armés d'un parapluie pour se protéger, les volontaires ont rapidement recueilli les petits sous les cris stridents de leur mère. La capture peut-elle avoir un impact négatif? Il n'y a aucun problème, précise Mme Bellil. Une fois qu'on les remet au nid, les parents considèrent leur défense de territoire comme réussie. En attendant, l'équipe procède avec soin. Les biologistes s'affairent à l'examen, à la pesée et au bagage, pendant qu'une bénévole consigne les données dans un registre. C'est en les pesant qu'on peut connaître le sexe, confie un biologiste au Devoir. Chez les rapaces, les femelles sont beaucoup plus grosses et plus lourdes que les mâles. Cette année, pas de doute devant le poids des rejetons. Deux bénévoles ont l'honneur de nommer un faucon chacun. Gali, qui signifie « tourbillon » en langue hébraïque, et Gao, qui veut dire « esprit du vent ». Pour l'autre, on va faire un appel à tous, souligne Ève Bellil. Le bagage, un atout important. Le bagage est une procédure qui consiste à apposer des bagues en métal autour des serres des oiseaux. Il s'agit d'un outil précieux des biologistes pour faire le suivi des populations aviaires. Si quelqu'un voit un oiseau bagué, mort ou vivant, et qu'il le rapporte, on a une donnée de plus pour savoir si la population se porte bien, précise Ève Bellil. L'identification, qui peut se faire en ligne, permet une surveillance étroite de la santé des écosystèmes. L'examen des fauconneaux, qui est fait en même temps, permet aussi de déceler d'éventuels problèmes de santé et d'intervenir au besoin. Dans les dernières années, il y avait beaucoup de mouches carnues qui s'attaquaient aux fauconneaux, raconte Ève Bellil. Ces parasites, qui se nourrissent du sang des oiseaux, peuvent causer de graves problèmes d'anémie chez les plus jeunes. Heureusement, pas de problème majeur à signaler cette année. Les trois femelles sont en bonne santé. Un succès de réhabilitation. Après avoir frôlé la disparition complète dans les dernières décennies, la population de faucons pèlerins se porte de mieux en mieux au Québec, au point que seule la sous-espèce anatome est encore considérée comme vulnérable. C'est un succès de réhabilitation, un beau succès, souligne Mme Bellil. Un succès largement attribuable aux efforts de réintroduction des biologistes et à l'interdiction des pesticides organochlorés, DDT, responsables de l'amincissement de la coquille de l'œuf et de la mort prématurée des embryons. D'ici à ce que Gali, Gao et leur sœur quittent définitivement le nid à la fin de l'été, les amateurs pourront encore suivre sur leur chaîne YouTube les étapes importantes de leur développement. Le premier vol, puis l'apprentissage de la chasse. Chose certaine, les faucons pèlerins de l'Université de Montréal n'ont pas fini de faire vivre des sensations fortes au public. C'était « Trois femelles pour les faucons pèlerins de l'Université de Montréal », un texte d'Ariane Godbout, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir. Thank you.
Le régime des rentes du Québec en renfort de la pension de sécurité de vieillesse. Un texte signé Pierre-Carl Michaud, publié dans l'actualité édition de juin 2026. La pension de la sécurité de la vieillesse est le poste de dépense le plus important du gouvernement fédéral. Les prestations aux aînés, dont la PSV, est le gros morceau, coûteront 89 milliards de dollars en 2026-2027, soit 17% du total. Mais la pension de sécurité de la vieillesse a bien des défauts et n'a presque pas évolué depuis sa naissance en 1952. Il faut que ça change. La PSV est financée par répartition, ce qui signifie que les contribuables d'aujourd'hui financent les chèques des retraités actuels. C'est une mécanique différente de celle du régime des rentes du Québec qui, pour sa part, tire partiellement sa capitalisation de 140 milliards de dollars, les paiements aux retraités. Le financement par répartition se justifie mal dans un contexte de vieillissement démographique. Selon le dernier rapport actuariel, marqué par une impressionnante augmentation du nombre de bénéficiaires, le coût de la pension de la sécurité de vieillesse s'élèvera à 276 milliards de dollars en 2060. La pension de sécurité de vieillesse atteindra de moins en moins ses objectifs qui consistent à aider les aînés à faible revenu, donc à lutter contre la pauvreté, à contribuer à amoindrir la chute des revenus à la retraite pour les autres en remplaçant adéquatement ces rentrées d'argent. Du point de vue de la lutte contre la pauvreté, le programme est mal ciblé. Les aînés ayant un revenu de retraite d'environ 90 000 $ ou moins reçoivent à peu près tous quelque 9 000 $ par année. À peine 8 % des contribuables touchent un montant inférieur. La pension de sécurité de vieillesse n'aide donc pas seulement les retraités les plus pauvres. Les bonifications successives de la PSV sont tributaires de décisions politiques à courte vue, parfois électoralistes, aux conséquences financières importantes à long terme. La pension de sécurité de vieillesse remplit de moins en moins bien son deuxième objectif, le remplacement adéquat des revenus. En effet, la PSV ne remplace plus que 15 % des revenus de carrière pour un travailleur au salaire moyen. Elle s'avère une source de revenus de retraite de moins en moins importante, même si ses coûts explosent. Cette proportion est même appelée à diminuer dans les décennies à venir, puisque l'indexation de la pension de sécurité de vieillesse s'accroche à l'inflation, historiquement moins forte que la croissance des salaires. L'érosion de la PSV est donc programmée. Au fil du temps, elle coûte plus cher, mais elle protège moins les retraités contre une baisse de leur pouvoir d'achat. Ces faits étant bien établis, le gouvernement fédéral pourrait se concentrer sur le filet social pour les retraités les plus pauvres et laisser au régime des rentes du Québec la mission de procurer un remplacement de revenus adéquat à la retraite. Le Canada pourrait remplacer les programmes existants, soit la pension de sécurité de vieillesse et le supplément de revenus garanti, le SRG, par « une allocation canadienne pour aînés ». Conçu pour aider ceux qui n'ont rien d'autre à ne pas vivre sous le seuil de la pauvreté. Le chèque diminuerait en fonction du revenu de retraite jusqu'à disparaître pour les retraités ayant au moins le revenu médian. Cette nouvelle allocation coûterait beaucoup moins cher que la pension de sécurité de vieillesse et elle lutterait contre la pauvreté plus efficacement. Il reviendrait au régime des rentes du Québec et à son cousin dans le reste du pays, le régime de pension du Canada, de bonifier les prestations futures pour couvrir le manque à gagner. Initialement, la grande majorité des retraités ne verraient aucun changement, puisqu'ils recevraient un seul chèque équivalent au total de leurs deux chèques actuels. Dans l'avenir, ce chèque grossirait plus rapidement et aiderait à maintenir un taux de remplacement des revenus plus stable. Pourquoi? Parce que les paiements du régime des rentes du Québec sont liés aux contributions passées et augmentent donc à un rythme plus élevé que les montants de la pension de sécurité de vieillesse pour chaque nouvelle génération qui prend sa retraite. Il faudrait certes hausser le taux de cotisation au régime des rentes du Québec pour financer ces nouvelles obligations, mais avec une facture moins douloureuse qu'on ne pourrait le penser, parce que le régime a des actifs suffisants pour soutenir une transition en douceur. Le taux de cotisation pourrait augmenter progressivement sur une décennie ou plus. Mais ce n'est pas tout. Comme Ottawa ne subirait plus la même pression budgétaire venant du financement par répartition de la pension de sécurité de vieillesse, une baisse des taxes et impôts fédéraux serait de mise. De quoi redonner du souffle aux contribuables et aux provinces? Les fédéralistes y verront une manière de résoudre le déséquilibre fiscal et les souverainistes de réduire le poids de la pension de sécurité de vieillesse de façon substantielle dans le budget de l'an 1. Qui aurait cru que l'avenir du fédéralisme fiscal canadien était peut-être lié au sort du système de retraite? Et c'est sur cette question que Pierre-Carl Michaud termine ce texte qu'il a titré « Le régime des rentes du Québec en renfort de la pension de la sécurité de vieillesse ». Texte publié dans l'Actualité, édition de juin 2026.
Pascal Roux, le traducteur québécois du phénomène « Heated Rivalry », une entrevue réalisée par Samuel Rochelle, parue le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. On pourrait écrire un article entier sur les attentes envers les traductions francophones des romans qui ont inspiré la série télé « Heated Rivalry ». Mais ce serait se priver d'une discussion riche avec le traducteur québécois Pascal Roux sur la représentation queer positive et la popularité des romans auprès des femmes hétéros. À quel point la version francophone des livres est-elle attendue? On pense d'emblée au Canada et à la France, mais il y a des francophones partout dans le monde. La série de livres avait déjà un très gros fandom avant la série télé, mais depuis novembre dernier, il a quadruplé. Certains fans revisionnent la série jusqu'à 50 fois. Je suis flabbergasté. Ils veulent tellement rester dans l'univers qu'ils désirent lire les livres. Et comme tout le monde n'est pas à l'aise pour lire en anglais, ils attendent très fort la traduction et ils scrutent tous nos choix, comme lorsque la maison d'édition a publié des extraits de la version française de France sur les réseaux sociaux. La traduction des 8 tomes a été répartie entre toi et Eleonore Kempler. Vous adaptez ensuite la totalité pour les marchés nord-américains et franco-européens. Pourquoi offrir deux versions? Au début, on prévoyait faire une seule version en essayant de la rendre aussi universelle que possible. Dès le départ, on savait que ça bloquerait à certains endroits. Le hockey, le sexe et certains éléments culturels propres à chaque territoire. On a proposé d'utiliser des termes en anglais compris des deux côtés de l'Atlantique, mais ça ne fonctionnait pas toujours. Par exemple, en France, le mot « rondelle » fait rire, car c'est un terme argotique pour « anus ». Bref, on n'était pas satisfait. En faisant des lectures croisées de nos traductions respectives, on notait ce qui ne passerait pas en France ou en Amérique du Nord. On a présenté des preuves à la maison d'édition qui s'est ralliée à l'idée de faire deux versions. Bien écrire le sexe est un défi que peu réussissent. Est-ce aussi un défi de bien le traduire? Oui, car les scènes de sexe peuvent vite devenir ridicules. Dans la série de livres, elles sont écrites avec beaucoup de simplicité. Il n'y a pas de métaphore ni de comparaison. On est dans la description de l'acte, sans être clinique, car il y a beaucoup d'émotions. Si on reste fidèle au texte, ça fonctionne bien dans la traduction. Il faut simplement choisir le bon registre de langue. Si dans l'original on utilise des mots comme « coq » et « dick », on ne va pas choisir un terme d'un registre de langue élevée comme « verge » du côté nord-américain, mais plutôt des termes crus, car c'est du sexe cru. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à un projet queer d'une telle ampleur? Ces livres se concentrent sur des enjeux queers. Il est question d'hockeyeurs gays confrontés à l'impossibilité de vivre leur identité sexuelle dans un milieu si toxique qu'ils craignent de devoir mettre fin à leur carrière s'ils font leur coming out, ou de vivre tellement d'homophobie qu'ils vont devoir abandonner leur sport. On montre la découverte et l'acceptation de leur identité queer ou la volonté de la vivre au grand jour. Tout cela dans la romance. Un des éléments importants de ce genre littéraire, c'est qu'on sait que ça va bien se terminer. Mais on les voit évoluer, découvrir l'amour et la joie d'accepter qu'ils peuvent être aimés. Les personnes queer sont souvent représentées dans la souffrance, la maladie, le rejet ou la mort. On vit des choses extrêmement violentes, des agressions épouvantables, alors qu'ici on est représenté avec du positif, de l'amour, de la douceur, du respect. On a besoin d'être vu comme ça. Tu es né en France en 1976 et tu as déménagé au Québec il y a 25 ans. En quoi la vie queer est-elle différente entre les deux territoires? Le Québec a 15 ou 20 ans d'avance sur l'Europe pour beaucoup de choses. Je continue de suivre ce qui se passe en France. Je connais beaucoup de gens là-bas. La discrimination et la violence envers les personnes queer est plus présente et plus frontale. Au Québec, c'est beaucoup plus simple de vivre son identité. Même si on entend des voix très fortes qui s'expriment contre les personnes LGBTQ+, elles sont généralement contre tout le reste aussi, les immigrants, l'avortement et les libertés individuelles, sauf les leurs. Elle crie fort, mais dans l'essentiel, la vie queer au Québec est bien plus douce. J'ai fait une transition de genre il y a presque 10 ans. Ça s'est très bien passé. Ma famille, mes amis et mes collègues ont accepté très simplement. Je sais que je ne représente pas le parcours de tout le monde, et surtout, je suis un homme trans. La vie des femmes trans est beaucoup plus difficile que la mienne. Inévitablement, j'ai constaté que je gagnais le privilège masculin. Pourquoi les romances queer sont-elles surtout lues par des femmes hétéros? Souvent, la romance gay est dénuée de masculinité toxique. Les relations entre hommes y sont plus égalitaires. Le consentement est davantage mis de l'avant. J'ai l'impression que plusieurs femmes hétéros qui vivent des relations avec des hommes pas toujours pleinement conscients de leurs privilèges masculins et de la toxicité de certains de leurs comportements se sentent libérées de lire ça et de se laisser porter sans ressentir le besoin de s'identifier à un ou à l'autre. Quand on lit une romance hétéro et qu'on est une femme hétéro, on s'identifie automatiquement à la femme et on revit peut-être le même système d'oppression qu'on vit dans la réalité. La romance gay permet probablement, pour certaines lectrices, de se retirer de ces histoires. Et il y a possiblement une partie du lectorat qui a juste un fantasme sur les hommes gays tout comme certains hommes hétéros fantasment sur les lesbiennes. Et pourquoi voit-on autant de romances queer écrites par des femmes hétéros? Je ne sais pas si elles sont plus nombreuses à écrire ces histoires-là, mais elles sont plus nombreuses à être publiées. Quand on est une personne queer, c'est plus difficile d'avoir accès à certains marchés. On ne peut pas publier n'importe où. Les maisons d'édition ne sont pas toutes queer-friendly. Certaines publient des auteuristes queer comme Tolkien parce que ça en prend dans leur catalogue, sans être consciente qu'on ne peut pas travailler une œuvre queer comme on édite n'importe quel autre texte. Donc, les maisons qui publient correctement les artistes queer sont moins nombreuses. Oui, alors que dans le milieu littéraire, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus en général. Je ne sais pas si on fait plus confiance aux femmes hétéros pour raconter nos histoires ou si c'est parce que le public a moins accès à nos histoires qui sont davantage publiées dans des maisons d'édition indépendantes, qui font des plus petits tirages et qui sont moins couvertes par les médias. Ça devient un cercle vicieux. Si on parle peu de nos publications, les maisons d'édition rushent et c'est plus difficile de continuer à nous publier. C'est aussi le travail des médias de découvrir les auteurs queer et les maisons qui publient différemment du mainstream. Et c'est le travail des libraires indépendants qui peuvent transformer des livres en succès. Tu peaufines ces jours-ci les tomes 3 et 4 qui sortiront l'automne prochain. Tu vas ensuite plancher sur les tomes 5 et 6 prévus pour l'hiver 2027. Il en restera deux autres, en plus de celui en cours d'écriture par l'autrice Rachel Reed. Est-ce une bénédiction ou un fardeau de rester dans le même univers aussi longtemps? Les deux. C'est agréable de traduire une série en restant avec des personnages qui reviennent. On n'a pas à se demander comment on traduisait ceci ou cela, même si le style de narration est différent selon les personnages, puisque personne ne parle et ne pense de la même façon. En même temps, c'est un fardeau, parce que je ne pense qu'à ça depuis janvier. J'ai l'impression d'être un disque rayé. Mais il y a pire que de traduire pendant un an des romances gays avec du sexe, du consentement, de l'amour et des fins heureuses. C'était Pascal Rault, le traducteur québécois du phénomène Heated Rivalry, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Les ex-fumeurs qui vapotent augmentent le risque de cancer du poumon. Un texte de Jean-Benoît Legault, de La Presse canadienne, paru le 19 juin 2026 dans La Presse. Vapoter après avoir cessé de fumer semble augmenter radicalement le risque de cancer du poumon, selon une étude publiée par des chercheurs sud-coréens. Pour le groupe à haut risque, le passage à la cigarette électronique était associé à un risque accru de 91% de souffrir d'un cancer du poumon et à un risque accru de 92% de mort liée à cette maladie par rapport aux personnes ayant complètement arrêté de fumer. C'est sûr qu'on avait toujours ces inquiétudes-là, que la cigarette électronique n'est pas une solution au tabagisme, a dit la docteure Nicole Euser, spécialiste du cancer du poumon au Centre universitaire de santé McGill. Mais c'est la première fois qu'on a des données populationnelles qui nous indiquent qu'effectivement, ce n'est pas une solution au tabagisme. Je m'en doutais. Les auteurs de la nouvelle étude ont analysé les données de santé de plus de 4,5 millions de personnes en Corée du Sud afin de déterminer si l'utilisation de cigarettes électroniques après avoir arrêté de fumer, était associé à un risque accru de cancer du poumon et de mort liée à cette maladie. Conclusion, les ex-fumeurs qui adoptaient le vapotage augmentaient de 56 % le risque de cancer du poumon et étaient deux fois plus susceptibles d'en mourir. Parmi les sujets qui avaient cessé de fumer depuis au moins 5 ans, les chercheurs ont mesuré un risque de cancer plus élevé chez ceux qui s'étaient tournés vers le vapotage que chez ceux qui avaient tout arrêté. Une situation similaire a été constatée parmi les sujets qui avaient cessé de fumer depuis moins longtemps. En revanche, a dit le docteur Heuser, l'étude nous démontre que le bénéfice de l'arrêt tabagique est vraiment réel et les ex-fumeurs sans vapotage ont 44 % moins de risque de décès par cancer du poumon que les fumeurs actifs. Le bénéfice est compromis lorsque la cigarette électronique est introduite, a-t-elle ajouté. Contrairement à l'image qu'on peut s'en faire, les vapoteuses ne sont pas inoffensives et peuvent exposer l'utilisateur à des substances cancérogènes comme le formaldéhyde ou à des métaux lourds comme le chrome, le nickel et le plomb, a rappelé le Dr Heuser. Conséquemment, même si la nouvelle étude n'établit aucun lien de causalité, ces résultats suggèrent que la consommation de cigarettes électroniques, après avoir arrêté de fumer, pourrait réduire les bienfaits d'un sevrage complet en matière de prévention du cancer du poumon, écrivent les auteurs. C'est toujours une insulte qui continue au poumon, a dit le Dr Heuser. Le poumon ne peut pas se guérir et on sait que cette insulte continuelle est vraiment problématique et permet à des mutations de créer des cellules cancéreuses. Donc, il faut vraiment arrêter l'irritation continue. Les ex-fumeurs qui ont besoin du geste associé au tabagisme devraient plutôt se tourner vers les inhalateurs de nicotine offerts sur ordonnance, a estimé le Dr Heuser. Quand les gens sont en cessation tabagique, je vais leur expliquer. Écoutez, si c'est le geste qui est important pour vous, il y a une option qu'on sait qui est sécuritaire. C'est juste qu'il n'y a pas de marketing sur ce type d'inhalateur de nicotine, a-t-elle dit. C'était « Les ex-fumeurs qui vapotent augmentent leur risque de cancer du poumon ». Un texte de Jean-Benoît Legault, de La Presse canadienne, paru le 19 juin 2026 dans La Presse.